Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Le roi cyclotymique. Et cette histoire est issue du recueil Laisse-moi te raconter les chemins de la vie de Roré Boucaille. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un roi très puissant qui régnait sur un pays très lointain. C'était un bon roi, mais qui avait un problème. Il avait deux personnalités. Certains jours, il se levait exultant, euphorique, heureux. Dès le matin, ces jours-là semblaient merveilleux. Les jardins de son palais lui paraissaient plus beaux. Ses serviteurs, par un étrange phénomène, se montraient aimables et efficients. Pendant le déjeuner, il affirmait qu'on fabriquait dans son royaume les meilleures farines, qu'on y récoltait les meilleurs fruits. Ces jours-là, le roi réduisait les impôts, distribuait des richesses, accordait des privilèges, légiférait en faveur de la paix et du bien-être des personnes âgées. Ces jours-là, le roi accédait à toutes les requêtes de ses sujets et amis. Cependant, il y avait aussi des jours bien différents. C'était des jours noirs. Dès son réveil, le roi se rendait compte qu'il aurait aimé dormir un peu plus. Mais lorsqu'il s'en apercevait, il était trop tard, le sommeil l'avait quitté. Il avait beau faire, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ses serviteurs étaient de si mauvaise humeur et le servaient si mal. Le soleil l'incommodait, plus encore que la pluie. La nourriture était tiède et le café trop froid. L'idée de recevoir des visites augmentait sa migraine. Ces jours-là, le roi pensait aux engagements qu'il avait pris en d'autres temps et s'effrayait lorsqu'il pensait à la manière de les respecter. C'était au cours de ces périodes que le roi augmentait les impôts, confisquait les terres, mettait ses opposants en prison. Craignant le présent et l'avenir, poursuivi par les erreurs du passé, il légiférait alors contre son peuple et le mot qu'il utilisait le plus était « non ». Conscient des problèmes que lui causaient ses sautes d'humeur, le roi convoqua tous les savants, mages et conseillers de son royaume. « Messieurs, leur dit-il, vous connaissez tous mes sautes d'humeur. Vous avez tous profité de mes moments d'euphorie et souffert de mes colères. Mais celui qui en souffre le plus, c'est moi. Car chaque jour, je dois défaire ce que j'ai fait à un autre moment, quand je voyais les choses autrement. Il faut, messieurs, que vous unissiez vos efforts pour me trouver un remède, quel qu'il soit, breuvage ou exorcisme, qui m'empêche d'être optimiste jusqu'à l'absurde, au point de perdre toute notion des risques, et pessimiste jusqu'au ridicule, au point de nuire à ceux que j'aime et de les opprimer. » Les savants acceptèrent le défi et, pendant plusieurs semaines, ils réfléchirent aux problèmes du roi. Cependant, aucune alchimie, aucun sortilège, aucune herbe n'apporta de solution aux problèmes posés. Ce soir-là, le roi pleura. Le lendemain matin, un étrange visiteur lui demanda audience. C'était un homme mystérieux, à la peau sombre, vêtu d'une vieille tunique qui un jour avait dû être blanche. « Majesté, dit l'homme en se prosternant, là où j'habite, on parle de tes maux et de ta douleur. Je suis venu t'apporter le remède. » Et, baissant la tête, il approcha du roi un coffret en cuir. Le roi, à la fois surpris et plein d'espoir, l'ouvrit et regarda à l'intérieur. Il y trouva un anneau d'argent. « Merci, dit le roi plein d'enthousiasme, c'est un anneau magique ?»« Bien sûr, répondit le voyageur. » Mais il ne suffit pas de le porter au doigt pour qu'agisse sa magie. Tous les matins, au moment de te lever, tu devras lire l'inscription qu'il porte et t'en souvenir chaque fois que tu verras l'anneau à ton doigt. » Le roi prit l'anneau et lut tout haut. « Sache que cela aussi passera. » La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun en détient la clé. Jacques Salomé. Ce roi cyclotimique est-il si loin de nous? Ne sommes-nous pas tous, dans une moindre mesure peut-être, sujets à des sautes d'humeur? N'y a-t-il pas des matins où nous nous réjouissons de la journée qui nous est offerte et où nous nous levons pleins d'énergie et d'appétit de vivre? Et d'autres où c'est plus difficile et où, comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, nous nous levons avec la pensée « encore un matin pour rien » et où nous resterions bien sous la couette? La vie est comme un mouvement de balancier, avec des périodes up et d'autres down. Et la tentation est grande de vouloir contrôler ce balancier et de le bloquer dans la position up. Combien de fois dans mes coachings, j'entends des personnes dire qu'elles aimeraient mieux maîtriser leurs émotions, apprendre à les gérer. N'est-ce pas là une volonté de contrôle? Tout comme notre roi cyclotimique qui cherche un remède magique, extérieur à lui, qui réglerait son problème. Et il est intéressant de voir que l'anneau qui lui est proposé exige une action de sa part pour fonctionner. Dès qu'il y a volonté de contrôle, il y a une forme de refus de ce qui se présente. Il y a, comme dirait Byron Katie, une dispute avec la vie, avec ce qui est. Et paradoxalement, cette recherche de solution, c'est-à-dire cette volonté de contrôle par exemple des émotions, va renforcer le problème. Si bien que non seulement nous allons vivre des émotions de colère, mais en plus nous allons être en colère d'être en colère. Ou nous allons avoir peur, ou être triste d'être triste, ou encore être en colère d'être triste, ou avoir peur d'être en colère, ou être en colère d'avoir peur, etc., etc. Une façon de lâcher ce désir de contrôle, c'est déjà de prendre conscience que chaque chose, chaque être, chaque sentiment évolue sans cesse. Nous retrouvons dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité la notion d'impermanence. Rien n'est permanent hormis le changement, dit la Kabbale. Et c'est la fonction de l'anneau du conte de le rappeler. Sache que cela aussi passera. La deuxième chose et de changer son regard sur les émotions en comprenant mieux leurs fonctions. Il y a quatre émotions fondamentales qui sont la peur, la joie, la tristesse et la colère. Et tous les sentiments ou humeurs que nous ressentons y sont reliés. Les émotions sont des signaux d'alerte précieux pour nous mettre en mouvement. Ainsi, la peur nous signale un danger et nous pousse à nous mettre en sécurité. La joie envoie le message « oui, encore » et nous pousse à nous organiser pour reproduire l'émotion et elle nous amène à aller vers l'autre pour partager notre joie. La tristesse, elle, signale une perte ou un deuil et sollicite l'action de reconnaître, honorer et changer. Et enfin, la colère nous signale que des limites ont été dépassées et nous incite à faire ce qu'il faut pour les restaurer. Il n'y a pas d'émotion sans ressenti physique. Une gorge qui se noue, une augmentation de la pression artérielle, des poils qui se dressent, une accélération du rythme cardiaque, des larmes, etc. Nous avons chacun notre façon de vivre nos émotions. Et porter attention à nos ressentis physiques nous permet de repérer les signaux faibles et prendre rapidement en compte l'émotion, faire l'action avant que sa manifestation devienne trop forte. Le processus se fait en quatre étapes. Première étape, je ressens l'émotion dans sa forme la plus immédiate. J'identifie de quelle émotion il s'agit et avec quelle intensité je la ressens. Deuxième étape, je reçois le message derrière. Par exemple, pour la colère, quelles sont les limites qui ont été franchies? Quelles sont mes valeurs qui ont été éventuellement mises à mal dans la situation? Qu'ai-je à restaurer, à réaffirmer? Et je laisse émerger les réponses. Troisième étape, je me mets en action. Je change quelque chose suivant l'information que j'ai reçue. Et quatrième étape, je retourne à mes activités. Je reconnais que la difficulté a été traitée. Je remarque que le pic émotionnel s'est calmé ou a disparu. Je profite du moment présent et je retourne au bien-être. Le conte du roi cyclotymique illustre bien que notre entourage est une projection de notre mental. Le roi voit les serviteurs aimables et efficients les jours où il est de bonne humeur et le servant si mal les jours où il est de mauvaise humeur. Ce n'est donc pas le comportement des serviteurs qui est en cause, mais bien les pensées du roi. Il serait donc vain les mauvais jours de chercher à changer les serviteurs. On voit donc la justesse de la phrase de Gandhi quand il dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde, ça commence par toi ». Le souci est que quand on a créé une croyance négative sur quelqu'un un jour, peut-être où nous avions une vision plus négative des choses, cela crée une marque, un historique. Et le cerveau est ainsi fait qu'aux prochaines rencontres avec cette personne, il va chercher à confirmer cette croyance. Aussi, comment adopter un regard neuf sur la personne ? Comment vivre le moment présent libre de tout historique ? Je vous propose un exercice pour tenter de se débarrasser de cet historique. Se débarrasser ou du moins le mettre de côté pour pouvoir vivre l'expérience au moment présent. Cet exercice est issu du livre « 50 exercices pour pratiquer la sagesse toltèque » de Virgil Stanislas Martin. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à penser à une personne que vous devez rencontrer prochainement et dont cette perspective ne vous enchante pas. Imaginez cette rencontre. Qui est cette personne et où cela doit-il se passer? Et maintenant, notez par écrit tout ce que vous anticipez. Qu'est-ce que cette personne va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment les choses vont se passer? Maintenant, réécrivez cette scène en imaginant que vous ne connaissez pas cette personne et que vous allez faire sa rencontre pour la toute première fois. Soyez curieux, curieuse de faire sa connaissance. Allez vers elle avec amour et bienveillance. Prenez le temps de vivre cette scène et de vous laisser surprendre par ce qui se passe. Puis notez ce que vous avez appris de cette expérience. Comment se passerait cette scène s'il n'y avait pas d'historique ? En entreprise, il arrive qu'une guerre se déclare entre deux services et perdure même quand l'historique n'est plus connu. Je me souviens, lors d'une prise de poste, un collègue me faisait faire le tour des bureaux pour me présenter chaque personne. Puis nous sommes allés à la machine à café et nous sommes tombés sur deux jeunes femmes que mon collègue évite de me présenter. Je lui demande qui sont ces personnes, il me répond « Elles, nous ne les aimons pas, nous ne parlons pas avec elles, elles travaillent au service communication B2C ». J'entrais alors au service communication B2B de l'entreprise et je me disais que c'était dommage de se priver de synergie entre deux services qui avaient un métier si proche. Et je n'ai jamais trop compris par la suite pourquoi les relations entre les deux services étaient si mauvaises. Je n'avais pas l'historique, mais les comportements perduraient. Jen Nelson, dans son manuel des activités de discipline positive, propose un exercice aux élèves en milieu scolaire, qui consiste à afficher des posters représentant des chaussures, et chaque élève écrit au niveau de sa semelle la manière dont il se sent. Par exemple, « je me sens exclu »,« je me sens nul », »,« je me sens encouragé », »,« je me sens fort », etc. Puis chaque élève se déplace de poster en poster et essaye les chaussures de l'autre pour ressentir lui-même ce que ça lui fait. En adaptant cet exercice au monde professionnel, on pourrait imaginer de dessiner les chaussures de l'équipe avec qui les relations ne sont pas faciles et d'écrire sur les semelles les retours que les membres de cette équipe ont exprimés. Par exemple, je ne me sens pas reconnu, j'ai l'impression que mon travail n'est pas respecté, etc. Et si vous n'avez pas eu de retour, ce que ces différentes expériences lui apprennent et ce que ça lui donnerait éventuellement envie de faire. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons des récits d'un bûcheron. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !